Jean-François Kahn, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Vous êtes parti dans cet essai au chevet de la gauche, puisque vous avez écrit sur la gauche, hein, ne m'appelez plus jamais gauche, pour éviter le pire, tout ce qu'il faut effacer de nos têtes. Il y a en compétition deux gauches qui sont de plus en plus irréconciliables. Enfin, je le dis d'ailleurs, est-ce qu'elles sont irréconciliables, les deux gauches?
Alors, oui, elles ont toujours été irréconciliables. D'abord, il y a aussi des droites irréconciliables. Mais en fait, c'est pas... si vous voulez, j'ai la conviction absolue qu'on a besoin de quelque chose qui a la fonction de ce qu'a été pendant deux siècles la gauche. C'est évident. C'est-à-dire la gauche qui s'est battue pour la République, pour les libertés, pour le suffrage universel, pour le progrès social. Même si on est de droite, on ne peut pas nier que la gauche, depuis 1789, a apporté un certain nombre de choses et qu'on lui doit un certain nombre de choses. Aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est même pire que ça. C'est qu'au fond, il y a une époque où la gauche disait des trucs, enfin encore il y a 40 ans, qui n'étaient pas vrais. Elle mettait en garde contre le danger fasciste. Mais il n'y avait pas un danger fasciste. Où était le danger fasciste? Elle mettait en garde contre l'antisémitisme. Mais il n'y avait plus d'antisémitisme. Elle mettait en garde contre les inégalités sociales effarantes. Oui, il y avait d'inégalités, mais plutôt moins qu'ailleurs. Bon, et je pourrais continuer. Mais aujourd'hui, c'est devenu vrai. Aujourd'hui, oui, il y a une menace d'extrême droite. Aujourd'hui, oui, il y a d'antisémitisme. Aujourd'hui, oui, les inégalités dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Oui, oui. Et au moment où c'est vrai, la gauche n'est plus là. C'est quand même avouer que c'est un paradoxe.
Alors, oui. Et pourquoi vous dites que la gauche n'est plus là? Il y a deux candidats, il y a deux listes pour les européennes.
Elle n'est plus là, c'est-à-dire d'abord... toutes les gauches, les unes après les autres, ça fait 32% dans les sondages. 32%, ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé. Bon, et c'est quand même avouer que c'est un paradoxe. Or, si vous voulez, je ne crois absolument pas que, comme mon ami Laurent Geoffrin, par exemple, je vous dis, il faut revenir à la social-démocratie. Mais non, c'est fini la social-démocratie. Ça a joué un rôle important. Mais c'est comme l'orléanisme. L'orléanisme a joué un rôle important. On ne va pas ressusciter l'orléanisme, bon, ou le bonapartisme. Je crois que ce n'est pas un problème de dépoussiérer. C'est qu'il faut la repenser. Il ne s'agit même pas d'ailleurs de refaire la gauche. Il s'agit de réinventer totalement quelque chose qui joue pour le meilleur le rôle qu'a pu jouer la gauche dans ses meilleurs moments. Voilà. Si je veux résumer, c'est exactement ça.
C'est-à-dire, si je vous ai bien compris et si je vous ai bien lu, ce sont les circonstances historiques qui font la gauche et pas l'inverse.
Oui, oui, absolument. Mais la gauche, alors, vous me parlez des circonstances historiques. Parce que ce qu'il faut remettre en cause, si on veut recréer une force vraiment républicaine... Il faut remettre le rapport que la gauche avait avec son nom. Gauche, ça ne veut rien dire. C'est quoi, gauche? C'est un positionnement. Comment vous pouvez vous définir par un positionnement? C'est-à-dire, ce n'est plus quoi, c'est où. C'est où vous êtes, c'est pas ce que vous dites.
C'est-à-dire un peu à la gauche d'un tel, un peu à la droite d'un tel.
Voilà, et sachant, voilà, bon. C'est Marseille est plutôt au sud de l'île, mais ça dépend d'où vous regardez. Si vous la regardez depuis Stockholm, elle est au nord. Bon, ce nom est absurde. Socialiste, parti socialiste, très bien. Vous connaissez un socialiste, même le plus à gauche est socialiste, qui a envie de faire une société socialiste? Évidemment, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc quand vous avez votre nom est un mensonge, ça vous incite pas à dire les vérités. Le rapport au peuple, c'est quoi le peuple? Ça veut dire quoi le peuple? Aujourd'hui, la gauche, nous défendons le peuple, la cause du peuple, la raison du peuple. Mais d'abord, le peuple, au sens, il vote d'extrême droite en majorité. Alors, déjà, il y a un problème là, si vous voulez. Mais en plus, ça veut rien dire. Ça commence où? Ça finit où?
Mais quand on vous dit la France insoumise s'est tournée vers un peuple... auquel elle a décidé de parler, c'est le peuple des banlieues, des quartiers. Ouais. Elle a inscrit dans son programme, Jean-François Kahn, l'agenda du conflit au Proche-Orient. Ouais. Est-ce que cette gauche-là, la gauche insoumise, celle de Jean-Luc Mélenchon, incarne une partie de la gauche?
Oui, malheureusement, oui. Le calcul qu'a fait Mélenchon, c'est de dire... Notre électorat, l'électorat de gauche, quand la gauche faisait 49, 50, 51 voix, enfin l'électorat populaire, c'est fini, il est passé à l'extrême droite. C'est d'ailleurs pas vrai, mais enfin, y en a qui sont passés à l'extrême droite. Mais il est perdu, on n'a plus, c'est foutu. Ils sont bourgeoisés ou je ne sais pas quoi, ils sont passés à l'extrême droite. Donc, puisque ce peuple ne vote plus pour nous, il faut un autre peuple, il faut inventer un autre peuple. D'où le fait de pousser à une émigration maximum. Plus je pousse à l'émigration, plus je m'invente un autre peuple. Et dans cet autre peuple, la majorité est plutôt musulmane. Donc, je dois surfer sur ce sentiment-là, y compris, à la limite, y compris même dans ce qui, les phrases islamistes. Ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, est une forme de racisme à rebours. Parce que si vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous apercevez que partout, il y a des musulmans qui se battent pour la laïcité, qui se battent contre l'islamisme, qui se battent contre l'extrémisme. Et là, on leur abandonne. Alors que la gauche devrait défendre, au contraire, la partie des musulmans qui se battent avec héroïsme. En Algérie, des dizaines de milliers sont morts pour se battre contre l'islamisme. Au lieu de défendre cette fraction-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle flatte la partie la plus rétrograde. Parce qu'en plus, c'est des réactionnaires, les islamistes. Donc vous avez une extrême gauche dont le summum, c'est de défendre ce qu'il y a de plus réactionnaire dans le cléricalisme.
Jean-François Kahn, vous avez une profondeur de champ historique, vous fréquentez la classe politique depuis des années. Je ne vais pas redresser vos états de service aujourd'hui. Quel regard vous portez sur le parcours de Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui, il y a 20 ans, parlait de laïcité, donnait des leçons de laïcité à Nicolas Sarkozy, ait fait cette volte-face politique ?
Alors, d'abord, on vient de répondre, vous m'avez incité déjà, je vous en remercie, à le dire, c'est-à-dire ce calcul cynique. C'est peut-être un canuc qui n'est pas totalement faux, je veux dire par là. Prenons pendant l'exploitation mais délirante du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, l'image que les insoumis ont donnée à l'Assemblée, par exemple, absolument déplorable, elle a fait le jeu de l'extrême droite. Vous imaginez qu'avant, quand l'extrême droite, c'était quoi ? C'était la violence, c'était les nervis, on dit les nervis d'extrême droite. Bon, aujourd'hui, on voit des gens qui ont une cravate, qui ne bougent plus, sages comme des images, et on voit les autres qui hurlent. Mais ça, c'est l'extrême gauche. Attendez, si Marine Le Pen les avait payés, c'est comme ça qu'il ferait. Hein. Ça revient au même. Or, donc, il y a ce calcul-là, mais donc il y a le calcul. Qu'on a dit, c'est-à-dire pour avoir le vote musulman, flat et tout. Mais il y a une autre raison, c'est le narcissisme. Quand vous poussez le narcissisme, l'égocentrisme, le narcissisme à certains niveaux, vous devenez toujours fou. Même Sarkozy, à un moment, est devenu fou par excès de narcissisme. Même Macron, quand vous voyez Macron qui ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre fasse un discours. Un type meurt, il fait le discours. Un type se casse le pied, il fait le discours. Il y a un anniversaire, il fait le discours.
C'est le rôle du président de la République.
Le discours sur Jean Moulin, qui l'a fait, c'est pas de Gaulle. Et ces discours durent une heure et demie. C'est une forme de folie auquel le narcissisme. C'est pas une injure.
Jean-François Kahn, je reviens à votre livre sur la gauche, ne m'appelez plus jamais gauche. On a parlé de la gauche insoumise, prenons la gauche entre guillemets socialiste, celle de Raphaël Glucksmann. Oui. Comment expliquez-vous ce que certains observent comme une percée dans cette compétition pour les européennes ? Et fait-il le boulot ?
Non, d'abord parce que ça existe. Aujourd'hui, la percée, c'est qu'il fait 12 ou 13% dans les sondages. Je vous signale que le Parti Socialiste a fait quelquefois 32 ou 33% à lui tout seul. Donc 12, c'est pas mal. C'est mieux que Benoît Hamon. Moi, j'ai mieux l'autre Hamon. J'ai mieux le Hamon, c'est blanc, 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 le ciel de Provence.
Ah oui, d'accord, vous parlez de Marcel Hamon. Voilà. Bon, là, mais ça, c'est votre penchant musical.
Et
vous
êtes mieux celui-là.
Vous êtes un puits de science musicale.
Quand même, vous vous rendez compte que quand Benoît Hamon s'est présenté comme candidat au présidentiel, la gauche avait tout. la majorité au Parlement, la présidente de la République, elle a eu la majorité au Sénat, la majorité dans les municipalités, la majorité dans les départements, donc le plus d'argent. Donc, et il fait combien ? 6%. On n'avait jamais vu ça, 6%. Est-ce que vous l'avez entendu, lui ou les socialistes, une minute s'interroger, quelle connerie on a fait, pourquoi, quelle erreur, qu'est-ce qu'on paye ?
Non, ils l'ont fait un petit peu, sont flagellés pendant quelques semaines.
Pas Benoît Hamon, non, pas. D'ailleurs, il a été faire un autre parti, du coup.
Jean-François Kahn, Luc Ferry expliquait derrière ce micro, il y a 3 jours, que la gauche ne faisait pas de propositions sociales, mais faisait du sociétal. Quelle proposition pourrait faire une gauche qui redeviendrait la gauche, cette gauche utile à cette évolution droite-gauche qui fait marcher l'histoire ?
Non, on ne peut pas dire qu'elle ne fait pas de proposition sociale. Elle en fait d'abord, ça n'existe pas, la gauche, il y en a plusieurs. C'est d'ailleurs extraordinaire. Vous avez une gauche étatiste et une gauche libérale. Vous avez une gauche européenne et une gauche anti-européenne. Vous avez une gauche laïque et une gauche cléricale. C'est-à-dire que dans tous les domaines, vous avez deux gauches qui représentent les options différentes. C'est quand même...
Contraire, même inversé.
La droite, c'est pareil, elle est en pleine dégringolade. Mais la droite, on sait, il suffirait qu'elle revienne à ses fondamentaux. Quand vous avez Éric Ciotti comme chef, franchement, vous ne pouvez pas faire un score. Tandis que la gauche, il ne suffit pas de se moderniser. Ça doit être radicalement se réinventer complètement. La droite, elle n'a pas besoin de se réinventer. Il faut qu'elle redevienne ce qu'elle a été. La gauche, non. La gauche, c'est quelque chose... Et ça ne doit plus s'appeler la gauche, d'abord. C'est ce que je dis dans le livre. Mais ça doit radicalement se réinventer, se réimaginer comme elle s'est inventée il y a 2 siècles.
Pourquoi dites-vous que la droite n'a pas besoin de se réinventer quand la gauche doit le faire ?
Parce que je pense qu'une des raisons du cassage de gueule de la droite, c'est qu'elle l'a dérivée par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Si elle redevient ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une gauche modérée, ouverte, libérale, etc.
Vous voulez dire une droite modérée ?
Une droite, pardon. Oui. Une droite libérale, ouverte, etc. Avec des leaders de qualité, elle retrouverait des couleurs.
Ouais. Dans le livre, vous expliquez que la gauche ne s'interroge pas assez sur son histoire et ne regarde pas assez derrière elle. Pourquoi ?
Parce qu'elle a mythifié sa propre histoire, totalement. Elle s'est racontée des blagues sur sa propre histoire. Elle a mythifié la commune, par exemple, mais d'une façon incroyable. La toute gauche commune, unie. Mais la commune, d'abord, c'est un échec gigantesque. Comment on peut mythifier un échec gigantesque ? C'est comme Victor Hugo, qui était d'extrême-gauche, pourtant à l'époque l'a dit, c'était une absurdité totale. Il n'y avait aucune chance de gagner. L'ennemi, le Prussien, était autour de Paris.
Dites que la gauche, finalement, elle aime ses révolutions manquées. Voilà, elle a beaucoup pleuré sur mai 68, elle a beaucoup pleuré sur la commune.
Ça. Exactement bon. Ça. Elle n'aime que les révolutions qui ratent. Et si elle peut faire un peu quelques massacres, enfin, si elle peut être victime d'un massacre extraordinaire. Ce qu'elle célèbre, ce n'est pas ce qu'elle a fait, la gauche, c'est elle pleure sur le massacre qu'elle a subi.
La gauche est toujours présente sur les campus universitaires, ou en tout cas une certaine gauche. Oui, enfin. Elle utilise le conflit israélo-palestinien pour mobiliser. Certains comparent les mouvements d'aujourd'hui dans les universités américaines avec ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam.
Ah oui, de toute façon, il y a des comparaisons. Le problème, c'est que, incontestablement, ce qui se passe, c'est normal d'être ému par ce qui se passe à Gaza. C'est normal que vous avez 34 000 morts en 4 mois, des enfants,
Chiffre du Hamas.
Ouais, mais ça doit pas être. Enfin, je sais pas, ça doit pas être très très loin. Mais enfin, mais de dire, par exemple, le génocide. Évidemment que dire génocide à Gaza, c'est de l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que ça veut dire retourner le concept de génocide. Vous nous avez emmerdés, vous les juifs, sur votre génocide, etc. Eh ben écoutez, c'est pas vrai, c'est vous les génocideurs. Attends, s'il n'y a pas quelque chose d'antisémitique. D'autre part, le génocide, c'est un mot, ça veut dire quelque chose. Génocide, c'est la volonté planifiée de détruire une ethnie ou une race en tant qu'ethnie ou race. On peut penser le pire, et je pense beaucoup de mal, de ce que fait Israël à Gaza. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec un génocide. C'est pas vrai. Ben, tous, ils répètent bêtement, connement, comme des perroquets. Génocide, génocide.
Jean-François Kahn, j'en reviens aux élections européennes. Vous imaginez une recomposition politique au lendemain de ce scrutin ?
Oh ben, y aura forcément. Hein.
Ouais.
Y aura forcément. Moi personnellement, je suis pour une dissolution. Je pense qu'il s'en sortira. Enfin, plus exactement, si le parti du président subit un grave échec, je pense qu'il doit dissoudre. Mais enfin, c'est leur problème, hein. C'est pas le mien. Hein.
Jean-François Kahn, merci. Ne m'appelez plus jamais gauche. Pour parler de la gauche, vous avez donné à votre essai un titre qui ressemble à une chanson de Michel Sardou, qui n'est pas un chanteur de gauche. Vous l'avez fait exprès, vous, le grand amateur de musique. Ne m'appelez plus jamais gauche, Jean-François Kahn. C'est paru à l'Observatoire. Merci, monsieur Kahn.
C'est moi qui vous remercie.
À suivre, le rappel des titres avec notre ami Charles Bonner, et puis la revue de presse d'Hervé Gattegno, et puis Franz-Olivier Gisbert et notre esprit libre du jeudi.